Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes en 1987 à Paris. Depuis plus d'un an maintenant, Dalida s'enfonce dans une longue dépression qu'elle parvient encore à cacher à ses fans à la télévision ou lors de ses concerts. Seule dans sa grande maison de la rue d'Orchamps, elle ne quitte presque plus sa chambre. Derrière les fenêtres fermées, elle passe le temps en tricotant et se repasse le film de sa vie, émaillé de bonheurs immenses et de drames. Quelques mois auparavant, Dalida s'est lancée dans une relation à cœur perdu avec un homme, un médecin d'une quarantaine d'années. Mais ce dernier amour se montre de plus en plus distant. Il doit la rejoindre ce soir du 2 mai, mais décommande au dernier moment. Dalida n'en dit rien à ses proches. Elle avale des barbituriques avec du whisky et trace ses derniers mots à l'attention de son public. « La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. »
Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien.
Ainsi s'éteint dans l'ombre, à 54 ans, celle qui avait passé 30 années dans la lumière. Quand elle disparaît, Dalida est une star planétaire. Elle a vendu 85 millions de disques dans le monde. Un destin extraordinaire pour la petite Yolanda Gigliotti, fille d'Italiens immigrés, née en 1933 dans une maison blanche du Caire. La musique, elle l'a rencontrée très tôt, dans les bras d'un père premier violon à l'opéra. Enfant solitaire, réfugié derrière des lunettes à double foyer, Yolanda est moquée par ses camarades. Pourtant, sous ses montures, elle est ravissante. Si belle même qu'elle remporte à l'adolescence un premier concours de beauté, puis décide de concourir au titre de Miss Égypte en 1954 dans un affriolant maillot de pièces léopard de pin-up. Si elle ne gagne pas, elle est vite repérée par deux metteurs en scène qui l'engagent pour deux petits rôles au cinéma. Sa carrière artistique est lancée. L'un d'entre eux est français et lui conseille de tenter sa chance à Paris. Dans l'avion qui l'amène vers la capitale, la reine de beauté s'entraîne à griffonner les autographes sur un petit carnet. Elle signe Dalila, un prénom à la mode en Égypte et qui lui a toujours plu. Débarquée à Paris le jour de Noël 1954, Dalila donc, désespère bientôt de réussir au cinéma et se tourne vers la chanson. Elle donne des tours de chant dans des cabarets dont celui très chic de la Villa d'Est. La jeune fille n'a qu'une seule robe et doit se serrer la ceinture, mais son accent colle à la mode de la chanson méditerranéenne et enchante le public parisien. Dans la foulée, Dalila s'est rebaptisée Dalida pour éviter la confusion avec le personnage biblique. Un soir, Bruno Cocatrix, directeur de la mythique salle de l'Olympia, la remarque et lui propose de participer à un radio-crochet, les numéros 1 de demain. Titre prémonitoire s'il en est. Dans la salle, au premier rang, deux hommes la regardent, Lucien Maurice et Eddie Barclay. Le célèbre producteur avouera plus tard dans ses mémoires que l'accent italo-égyptien correspondait exactement à ce qu'il cherchait, puisque l'exotisme musical était toujours payant à l'époque. Une voix travaillée, talent et une certaine allure, il n'en faut pas plus. Barclay signe le soir même un contrat avec Dalida. Lucien Maurice, quant à lui, est tombé littéralement amoureux. Il est responsable de la programmation musicale sur Europe numéro 1. Les tubes, c'est lui qui les fait. Alors ça tombe bien. Il prend la carrière de Dalida en main. Moins de 6 mois plus tard, c'est la gloire avec le titre Bambino qui tourne en boucle à la radio.
Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie.
Dalida enchaîne les hits et les premières parties, celles de Charles Aznavour et de Gilbert Bécaud, puis les tournées en France et en Europe. En 1961, après quelques années de relations, Mademoiselle Succès épouse Lucien Maurice. Elle le quitte après seulement quelques mois de mariage, ce qu'une partie de la profession ne lui pardonne pas. La presse se montre féroce à son égard. Sans cet homme, croit-on, elle n'est rien. À la fin de la même année, Dalida fait son premier Olympia dans une atmosphère délétère. Avant d'entrer en scène, elle reçoit même une couronne mortuaire. Et pourtant, nous nous attendions à une mise à mort, nous avons assisté à un baptême, écrit la critique Claude Sarraud dans les colonnes du Monde. Elle a retourné ses 2000 spectateurs comme autant de crêpes étalées dans autant de fauteuils. Dalida a prouvé qu'elle était une véritable artiste. Elle a aussi su se métamorphoser, teindre ses cheveux en blonde, quitter ses robes hollywoodiennes pour un style yéyé plus jeune et plus moderne. Cette capacité d'adaptation fera sa longévité. Diva dramatique à la fin des années 60, elle s'est réveillée sa carrière avec les succès populaires « dire la dada » en 1970 et « Parole, parole » avec Alain Delon. En 74, Gigi Lamoureuse, son plus grand succès mondial, est numéro 1 dans 12 pays. Dalida y montre toute l'étendue de son talent de chanteuse et de comédienne.
Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? Attends, laisse-moi te regarder. Mais tu plais? Ça n'a pas été là-bas, hein? Et alors, qu'est-ce qu'ils comprennent ces Américains à part le rock et le twist, hein? Ma Gigi, qu'est-ce que tu croyais? Devenir comme ça Gigi l'Americano? Et invece no, tu es Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini et tu es napolitain.
Arriva Gigi l'Amoroso, croqueur d'amour et de velours comme une caresse.
Au milieu des années 70, elle est l'une des premières en France à se lancer dans le disco et signe encore l'un de ses tubes, Laissez-moi danser.
Laissez-moi danser.
Malgré les succès immenses de Dalida, Yolanda, elle, vit dans sa vie privée une série de drames terribles. Son grand amour, le chanteur Luigi Tenco, se suicide dans leur chambre d'hôtel en 1967. Un mois plus tard, la chanteuse tente de le rejoindre en avalant des cachets et passe plusieurs mois en convalescence. En 1970, son ancien mari Lucien Maurice met fin à ses jours. 5 ans plus tard, son ami Mike Brandt se défenestre. En 1983, son ex-compagnon Richard Chanfray se suicide également. Surnommée la veuve noire dans les journaux, Dalida se convainc qu'elle porte malheur aux hommes qu'elle aime. Au fil des épreuves, Dalida s'enfonce dans la dépression. Elle se voit vieillir, repasse pendant des heures des vidéos d'elle plus jeune. En 1986, elle décroche un grand rôle, celui d'une grand-mère dans le 6e jour de l'Égyptien Youssef Chahine. Un tournage éreintant qui lui demande de revivre des souffrances personnelles. La critique est unanime pour saluer la performance, mais la vue de son visage vieilli sur grand écran, sans maquillage, la chevelure dissimulée sous des voiles l'horrifie. « Je ne voudrais pas qu'on me vole ma mort », avait prévenu Dalida qui avait chanté « Vouloir mourir sur scène ». Alors, ce soir de mai 1987, elle a tout orchestré pour son départ, loin, bien loin des projecteurs. Mais il y a une chose qu'elle n'avait pas prévue, quand elle chantait qu'avec le temps on oublie les visages et on oublie les voix, c'est que le temps n'effacerait jamais Dalida.
Europe 1, historiquement vôtre.